Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre pour ces hors-séries de l'été. Chaque semaine, nous revisitons la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature. La semaine dernière, nous étions chez Stephen King, la semaine prochaine chez Boris Vian. Et aujourd'hui, je vous laisse deviner avec ce petit extrait.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse.
Bonjour Tristesse, chef-d'œuvre de Françoise Sagan, bien sûr. C'est l'auteur qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour en parler, là, on peut difficilement faire plus connaisseur. J'ai invité Denis Westhoff, son fils. Bonjour Denis Westhoff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je vous propose qu'on reprenne par le début. Votre mère, Françoise Quarez, c'est un pseudonyme, Françoise Sagan, on va y revenir, est née à Cajarc, dans le Lot, en 1935, mais elle vit aussi à Paris. Elle est issue de la bourgeoisie. Mais qui était-elle enfant, Denis Westhoff? Qui était Kiki? C'était son surnom. D'ailleurs, pourquoi ce surnom?
Qui était-elle? C'est une jeune fille, comme les autres, qui grandit dans le Lot et puis qui, très vite, vient à Paris, parce que son père travaille à Paris. Et puis, en 1939, survient la guerre. Et là, la famille Quarez repart précipitamment pour le Dauphiné, où ils vont passer les 5 ans d'occupation allemande.
Vous dites une enfant comme les autres, mais pas tout à fait quand même. Elle a un caractère particulier, elle a une scolarité particulièrement chaotique.
Ah non,
par
moi
exemple,
je parle
elle est très libre.
Moi je parle avant la scolarité. Avant de rentrer à l'école, elle a passé son enfance à la campagne, dans le Dauphiné. Et ensuite, elle rentre à Paris après la guerre, et là, effectivement, sa scolarité est assez mouvementée.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'elle est une petite fille très insoumise, enfin très rebelle, enfin, et très, à la fois très intelligente et très vive. Donc elle est souvent en opposition avec ses professeurs. Elle est renvoyée de plusieurs collèges. Et puis elle arrive au bac et elle se fait recaler au bac, bizarrement. Ce qui fait qu'elle doit repasser l'épreuve. À l'époque, on repassait le bac à l'oral au mois de septembre.
Elle a été notamment, j'ai lu ça quelque part, renvoyée d'un des établissements parce qu'elle a pendu un Molière à la porte du cours parce qu'elle avait trouvé le cours de lettres vraiment trop ennuyeux.
Non, parce qu'elle détestait Molière surtout. Elle trouvait Molière à mourir d'ennui et elle avait pendu sa tête, son buste à une porte.
Ça passe mal évidemment.
Mmh. Puis elle a été aussi renvoyée d'une école religieuse pour manque de spiritualité.
C'est la littérature qui la sauve finalement, elle lit énormément, non?
C'est la littérature qui l'a nourrie et qui l'a fait vivre pratiquement, puisque dès l'âge de 7-8 ans, elle lit, elle dévore tous les livres qui lui tombent sous la main. Dès l'âge de 12 ans ou 13 ans, elle est inscrite à la bibliothèque du 17e arrondissement, rue Jouffroy, où elle passe ses après-midi. Et la bibliothécaire lui dit « Mademoiselle, vous allez vous crever les yeux, arrêtez de lire autant ». Donc c'est vrai que la littérature pour elle, c'est vraiment c'est tout ce qu'elle aime. Je pense qu'elle était prédestinée à la littérature, était prédestinée à l'écriture. Enfin, c'est la littérature qui l'amène à l'écriture.
Voilà, c'est ça. C'est une vraie lectrice.
C'est une vocation.
Et qui s'inspire aussi de ses lectures pour écrire.
Enfin, ce sont les mots, ce sont la passion des mots qui l'ont emmenée à l'écriture, naturellement.
Justement, on arrive assez vite, finalement, à Bonjour Tristesse. Je rappelle, donc, Bonjour Tristesse, c'est Cécile, 17 ans, qui raconte. Elle a perdu sa mère, elle est en vacances d'été avec son père sur la Côte d'Azur. Son père est Elsa, sa maîtresse un peu bébête, un peu idiote. Débarque Anne Larsen, beaucoup plus intelligente, et le père jette son dévolu sur elle. Là, Cécile, elle n'accepte pas. Et elle va leur mettre des bâtons dans les roues pour aller vite. Et parallèlement, elle découvre aussi la sexualité avec Cyril, qui est un jeune garçon. Et on ne raconte pas la fin, bien entendu, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Racontez-nous les circonstances de l'écriture de ce roman.
En fait, elle a raté donc son bachot. Elle repasse à la limite, extrême limite, son bachot au mois de septembre à l'oral. Elle a son bac tout près, vraiment tout près de la moyenne. Et comme elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire. Enfin, elle sait qu'elle va écrire, mais elle s'inscrit en propédeutique à la Sorbonne, en cours de lettres modernes. Et là, elle se retrouve dans un amphithéâtre bourré d'étudiants qui les cours n'intéressent pas parce que c'est bondé, parce que les professeurs trouvent ça ennuyeux. Donc, elle passe son temps dans le quartier latin à se balader avec ses copains. Et elle ne va pas en cours. Et puis, au bout de la première année, elle passe son premier examen. Évidemment, elle loupe son examen. Elle se retrouve recalée. Et donc, elle se retrouve à devoir partir en vacances d'été avec ses parents, sa mère et son père, sur la côte basque, sous les railleries de sa mère, qui se moque d'elle parce qu'elle a loupé son examen de première année. Et du coup, elle rentre à Paris au mois d'août. Et elle reprend l'écriture d'un manuscrit qu'elle avait commencé un peu plus tôt dans l'année, qui était le premier jet de Bonjour Tristesse. Et elle travaille à l'achèvement de ce manuscrit, qu'elle termine, à mon avis, mois de novembre, décembre, 53, non ? Elle montre son manuscrit à sa meilleure amie, qui est à l'époque Florence Malraux. Florence Malraux lui dit tu es une écrivain, ton manuscrit est formidable.
On va revenir à la publication, mais d'abord sur l'écriture en elle-même du roman, quand on est Françoise Sagan et qu'on a 18 ans, hein, c'est ça, 17-18 ans, et qu'on écrit ça, un roman aussi mature, c'est quoi le moteur de ce roman? D'où ça lui vient, cette situation-là, et cette envie d'écrire ça en particulier?
Je ne sais pas, moi, vous savez, moi, j'étais pas là quand elle a écrit le livre. Ce qu'elle m'a dit, c'est que elle avait ça en elle, en fait, elle avait le besoin d'écrire en elle. Et je pense que ce livre est la conjonction de mille envies et de mille choses qu'elle a piochées dans tous ces livres qu'elle a lus depuis qu'elle a 12 ans, 13 ans. Et voilà, c'est le fruit d'une maturation longue et souhaitée, je veux dire.
Mais on la connaît aussi pour sa modestie, Françoise Sagan. Est-ce qu'elle se dit que c'est très très bien écrit et que c'est un chef-d'œuvre, ou elle y va franchement comme ça, quoi?
Non, elle publie le livre absolument comme ça, sans même penser une seconde que le livre va être un succès ou qu'il va faire un tel raffut, parce que le livre a fait un raffut terrible. Non, elle publie le livre comme ça, vraiment, comme ça. Elle savait que c'était pas mauvais, mais elle n'avait pas de prétention sur la qualité. Elle ne pensait pas que le lit soit une telle trouvaille, quoi.
Restez avec nous, Denis Westhoff, on met un marque-page et on revient dans un instant pour la publication du livre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, hors série d'été consacrée à Françoise Sagan aujourd'hui, toujours avec Denis Westhoff, son fils. Nous parlions à l'instant de Bonjour Tristesse, publié en 1954, sans doute le roman le plus connu de Françoise Sagan et un roman culte, presque un classique maintenant pour beaucoup de gens. Elle n'a que 17 ans, c'est elle qui frappe à la porte de chez Julliard avec son manuscrit en fait, Denis Westhoff. Comment ça se passe?
Eh bien, elle avait le manuscrit qu'elle avait fait taper pour que ce soit plus propre, comme elle le dit elle-même. Elle fait dactylographier le roman en deux exemplaires, et elle va emporter un chez Julliard et un autre, à l'époque qui était rue l'université, et l'autre chez Plon. Et il se trouve que Julliard était plus rapide à lire le manuscrit. Le manuscrit a été transmis à René Julliard dans la soirée, enfin il a été prévenu très vite. Il est rentré d'un dîner, il a trouvé le manuscrit de ma mère, il l'a lu dans la nuit, et il a appelé ma mère le lendemain matin pour la convoquer dans son bureau.
Sauf qu'elle n'est pas majeure.
Sauf qu'elle n'est pas majeure et qu'elle dort le matin. elle s'était couchée tard. Et que René Julliard tombe sur la gouvernante qui lui dit « Madame dort, il faudra un peu plus tard ». Enfin bref, elle a finalement rendez-vous avec René Julliard dans l'après-midi. Et là, elle passe apparemment un long moment avec lui. Et lui, il veut bien s'assurer que c'est bien elle qui a écrit ce livre. Parce que c'est un roman quand même assez extraordinaire pour une jeune fille de 18 ans. Et elle le convainc très vite parce que c'est une jeune fille extrêmement brillante, rapide, intelligente et spirituelle. Et lui, c'est un homme très intelligent, très cultivé. Il comprend tout de suite qu'il a en face de lui un phénomène. Mmh. Et voilà, il signe. Enfin, elle signe. Elle fait signer par sa mère. Et voilà.
Parce qu'elle ne peut pas signer puisqu'elle est mineure.
Donc. Oui, à l'époque, la majorité a 21 ans.
Son père n'est pas tellement ravi, en fait, de cette nouvelle-là. Enfin, il n'est pas contre, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se choisit un pseudonyme, non?
Non, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait que son éditeur trouve que le nom Juarez n'est pas très... marketing, art commercial. Et puis, son père se serait opposé au fait que son nom Juarez soit utilisé, mais ça, je suis pas tout à fait sûr. Et donc, parce qu'il adorait sa fille et il lui cédait tout, donc je sais pas.
Sagan, c'est à cause de Proust.
Sagan, c'est dans Proust. Ouais.
C'est le prince de Sagan.
Oui, c'est le prince de Sagan.
Est-ce qu'on sait pourquoi elle choisit ce personnage en particulier, ou
non,
ça
parce
lui vient comme ça, ça sonne.
Elle m'a dit qu'elle était en train de lire Proust quand son éditeur l'a appelée pour choisir un nom. Que donc elle est tombée sur le nom de Sagan dans le texte de Proust, et donc elle a dit Sagan.
Alors, le succès est immédiat.
Au début, il y a une période un peu comme ça, entre le mois d'avril et le mois de juin. Il ne se passe pas grand-chose. Mais... elle a le prix des critiques, au début de l'été, enfin au mois de mai. Et là, c'est le, c'est la consécration, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle devient immensément Salem. Ah, mais oui. C'est le prix des critiques qui a lancé le succès.
Et c'est un succès aussi parce que j'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, qu'elle est adoubée assez immédiatement par le monde des lettres. François Mauriac, qui est quand même prix Nobel de littérature, oui. Qui l'appelle le charmant petit monstre.
Mmh. C'est dans Figaro, oui.
C'est d'ailleurs pas terrible comme expression, mais c'est pour en dire du bien.
C'est... Mais enfin, elle était un peu déçue parce qu'elle trouvait qu'elle était ni charmante ni monstre.
Alors c'est un scandale parce qu'on est dans les années 50.
Ouais.
Mais pourquoi il y a ce scandale-là en particulier ? C'est parce que parce qu'il y a des relations sexuelles sans vision de mariage, c'est ça ?
Oui, c'est parce que en fait cette jeune fille Cécile a une relation libre avec ce garçon Cyril sans qu'il y ait de conséquences. C'est-à-dire que elle couche avec lui et puis voilà. Et à l'époque, quand on couchait avec un garçon, on se mariait le plus souvent avec lui. Donc elle a ouvert une certaine diront qu'elle a ouvert une porte sur la liberté, une certaine liberté à laquelle aspiraient beaucoup de jeunes filles de l'époque, probablement, ce qui a fait que ça a déclenché tout un scandale. Toute une génération de jeunes filles qui avaient 17-18 ans à l'époque rêvaient de pouvoir écrire un livre comme Françoise, parce qu'elles pensaient aussi un peu ces choses-là, je pense.
C'est là qu'on peut voir qu'elle est complètement dans son époque, parce que ça préfigure les années 60.
Complètement.
Elle a 18 ans quand même à l'époque, même si elle est quand même très mature. Ces personnages s'expriment comme des adultes. Comment est-ce qu'elle gère ce succès ? Comme une adulte ou comme une gamine, en fait, de 17-18 ans ?
Eh ben, je crois que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Elle ne s'attendait pas du tout, d'abord, à ce que le livre ait autant de succès. Elle a été extrêmement surprise.
500 000 exemplaires, c'est gigantesque, c'est en un an.
Elle a été extrêmement surprise. Et puis ensuite, elle a vite compris ce que c'était que la gloire. C'est-à-dire que, pour elle, c'était un éclat de lumière sur elle, assez passager, assez bref. Et puis, ma foi, elle a courbé le dos, puis elle a attendu que ça passe. Mais bon, elle était devenue tellement célèbre qu'elle n'a jamais eu la tranquillité, en fait.
Ben, elle attend que ça passe, mais en même temps, en 1956, elle revient avec un certain sourire, et c'est aussi un succès.
Non, mais je parle de la gloire, du phénomène de la gloire.
Mais elle s'installe pour de bon, là, dans cette gloire-là.
Alors après, on l'attend au virage du deuxième livre.
Ah oui.
Et puis, effectivement, c'est une confirmation. François Sagan est écrivain, si on peut dire.
Parce que
je pense qu'elle est rassurée sur le fait qu'elle peut tenir la distance, écrire un second roman et avoir un succès presque équivalent au premier.
C'est drôle que vous le disiez comme ça, parce que c'est vrai que quand on lit ses interviews, on se rend compte qu'elle n'a jamais considéré qu'elle avait énormément de talent. Un peu, mais pas énormément.
Oui.
C'est fou. Est-ce que ce n'est pas une modestie ? C'est de l'humilité,
Mais oui, c'est l'humilité, en fait. Elle n'avait pas. Vous savez, quand elle considérait comme. Elle pensait à des écrivains comme Stendhal ou comme Marcel Proust, elle pensait qu'elle était vraiment peu de chose, quoi, comparée à eux. Elle pensait qu'eux, c'était vraiment des grands écrivains qui avaient énormément de talent. Et qu'elle était un écrivain beaucoup moindre par rapport à eux, en fait.
Mais elle souffrait ou pas de cette situation ?
Ah non, pas
de cette
situation ? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Elle n'a jamais eu des rêves de grandeur. Ce n'est pas dans son caractère.
Mais ça voulait dire aussi qu'elle donnait énormément d'importance à la littérature, à sa littérature, ou seulement à la grande littérature des autres auteurs et pas à la sienne.
Ah non, à la littérature en général.
Elle le prenait au sérieux quand même.
Bien sûr.
Son travail.
Elle considérait que son travail était honnête. Mais elle considérait que ce n'était pas un travail de génie.
Voilà. En tout cas, elle devient assez vite une figure de la littérature française, au risque parfois de devenir un personnage. Mais on va y revenir, je sais que ça vous agace ce côté personnage. A tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre, spécial Françoise Sagan, continue avec vous, Denis Westhoff, son fils, gardien de l'œuvre. En préparant cette émission, l'équipe de la documentation d'Europe 1 a retrouvé cette archive. Écoutez, elle parle de Paris au mois d'août.
Paris au mois d'août, c'est une ville délicieuse parce qu'elle est un peu vide, on peut rouler comme on veut, parce qu'on revoit la ville et ses monuments et ses rues, ses avenues comme on a envie de la voir. Et moi, personnellement, j'ai très souvent passé le mois d'août à Paris par goût, parce que c'est tranquille. Si on veut rouler dans Paris en voiture, c'est toujours effrayant pour aller d'un endroit à l'autre l'hiver. Et là, c'est comme si Paris était une ville ouverte. On se promène en voiture décapotable si on veut, on fait des rencontres dans les rues, on parle un peu n'importe qui. Je sais pas, c'est un côté un peu paresseux, un peu ouvert, j'aime bien. Les vieux amis que j'ai pas vus depuis longtemps, qui sont mariés, hein, et que je vois de temps en temps l'été. Et puis, je sais pas, toute une catégorie spéciale de gens qui sont à Paris en août, et qui sont toujours les mêmes un peu, et que j'aime bien retrouver. Voilà. C'est une tribu, les Aoussiens, c'est vrai.
La tribu des Aoussiens. Je vais vous dire, Denis Westhoff, j'ai écouté plusieurs fois cette archive. Pourtant, elle dit rien que d'assez banal. Mais c'est son style qui change tout. C'est pareil dans ses livres. Elle a quelque chose d'incroyablement sympathique, de doux. On a envie vraiment d'aller boire un thé avec elle. Encore aujourd'hui, est-ce que vous ressentez cet attachement immédiat des lecteurs ou des gens qui la découvrent, cet attachement à votre mère?
Oui, c'est vraiment l'attachement qui est très profond et qui est général. C'est que tous les gens qui l'ont connue d'abord, et puis ceux qui ne la connaissent pas mais qui l'ont lue ou qui l'ont entendue par la radio ou par la télévision, ont tous cet élan de sympathie. Ils la trouvent attendrissante, touchante. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller vers elle. C'est un sentiment général.
On parlait du personnage tout à l'heure, et on essaye de dresser sa vie, donc on va trop vite, bien sûr, mais on a parlé du succès, de l'enthousiasme et de la douceur de Françoise Sagan, mais elle, sa vie est quand même aussi marquée par des drames. Elle a frôlé la mort plusieurs fois, et notamment lors d'un terrible accident célèbre de voiture en 57. Ça se passe à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, sur une route nationale. Elle conduit son Aston Martin, comme toujours très vite, à 160 km/h. Là, c'est l'accident. Il y a trois passagers qui s'en sortent indemnes, mais pour elle... les secours pensent que c'est terminé, en fait. Elle sort complètement cassée, dans tous les sens du terme, de cet accident. Qu'est-ce que ça change dans la vie de Françoise Sagan? C'est un nœud ou c'est la continuité?
Je crois qu'elle se croyait... jusque-là, elle se croyait un petit peu invincible. Jusqu'à cet accident, elle avait... Toutes les circonstances étaient en sa faveur. Elle a eu le succès, la jeunesse, l'argent... le talent. Et là, avec cet accident, tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle n'est pas invincible et que tout peut lui arriver, comme à tout le monde. Et je pense que ça marque effectivement un tournant dans sa vie parce qu'elle se rend compte qu'il va falloir faire plus attention. Et puis, cet accident marque aussi un début dans sa vie, c'est celui de la toxicomanie, puisque vous savez qu'on la soigne avec des médicaments qui sont des dérivés morphiniques. Et qu'à partir de là, elle va être, on va la droguer de force presque, pour lui épargner les douleurs de son accident, de ses fractures.
D'où ça vient cette passion de la vitesse et des voitures de sport? C'est les lignes, c'est la beauté des voitures, c'est le danger?
Ce sont les sensations que procure une voiture et le fait d'aller vite. Mais ça, il faut l'aimer soi-même pour pouvoir en parler et pour pouvoir le dire. Conduire une voiture décapotable assez vite sur une route de campagne, c'est quelque chose de très charmant.
De grisant. Tout ça, ça participe quand même. Là, on vient... C'est pas des clichés, ça existe, mais ça participe du personnage de Sagan. Et c'est vrai qu'on en a une certaine idée, même si elle est bienveillante, cette idée de Françoise Sagan, du personnage Sagan. Mais quand je vous ai eu au téléphone avant cette émission, vous m'avez dit que vous étiez un peu agacé, quelque soit sans arrêt ramené à ce personnage.
Mais oui, parce que Sagan, moi j'ai fait je ne sais combien d'émissions où on m'invite pour parler d'elle. Et le plus souvent, on parle d'elle en termes de... C'est vrai qu'on parle de ses voitures, on parle du whisky, on parle du casino, on parle des boîtes de nuit, on parle de tous ces gens qui étaient des parasites. Et on parle de drogue éventuellement, mais on parle pas de ses livres. Donc c'est plutôt l'image, c'est l'image de Françoise Sagan qui revient sans cesse, qui l'agaçait beaucoup à l'époque, puisque...
Mais avec laquelle elle jouait quand même.
Bah, elle était forcée de jouer, puisque de toute façon, quoi qu'elle fasse, ça lui revenait dessus. Donc autant prendre les choses du bon côté, si vous voyez. Mais elle reprochait déjà à l'époque aux journalistes de lui parler de ses dépenses, plutôt que de parler de ses livres.
En tout cas, elle vit sans se demander chaque instant si c'est convenable ou non, ça c'est sûr. En 72, François Chalais sur Europe 1 lui a demandé si elle pensait qu'elle avait réussi sa vie. Écoutez sa réponse.
Alors ça... C'est une des expressions les plus bizarres que je connaisse. On ne réussit pas sa vie, on ne réussit pas, on peut pas plus y réussir qu'il a manqué.
On a réussi quand on a moins de regrets que de satisfaction.
J'ai jamais pensé à faire le calcul.
Oui.
Alors peut-être dans cette mesure, j'ai réussi.
Oui, je pense que vous avez raison d'ailleurs.
C'est vrai, au fond, ça, Denis Westhoff, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? C'est très compliqué. Elle a raison, bah, Françoise
oui,
Sagan, votre mère. En tout cas, elle reste aujourd'hui. Je veux dire, on en parle aujourd'hui, mais. Sans arrêt, il y a des rééditions, il y a ses chroniques aussi, on réédite ses autres romans. On va en parler tout à l'heure, mais il y a eu même un roman inédit, un manuscrit que vous avez retrouvé, Les Quatre Coins du Cœur. Mais elle reste dans notre époque et incroyablement moderne. Et d'ailleurs, vous avez un texte que vous vouliez nous lire, qui fait écho à l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui, c'est un texte qui a été publié en 91, au moment où déjà les infirmières... se plaignaient de leur sort. Et ma mère s'est prise de sympathie pour elle et a écrit un texte.
On vous écoute.
Très bien. Oublié, maltraité. J'ai rencontré ma première infirmière à l'âge de 8 ans, ou à peu près. C'était un après-midi de juillet. J'ignorais que mon frère avait trouvé dans le grenier deux sabres de cavalerie et se livrait avec un petit copain à une reconstitution historique de la bataille de Rachofen, dans le jardin. C'est ainsi qu'au passage, j'ai reçu un grand coup de sabre. Ils avaient laissé le fourreau, ce qui m'évita d'être décapité, mais pas d'avoir l'arcade sourcilière ouverte. C'est à travers un brouillard rouge, et pendant que ma mère s'évanouissait, que j'ai vu le visage de ma première infirmière. C'est-à-dire cette expression à la fois compatissante, attentive, compétente, compréhensive, que sais-je, que j'ai retrouvée toute ma vie au cours de 1000 péripéties, et il n'y a pas encore tellement longtemps, il y a 10 mois, où je me fis remettre un fémur neuf, ayant cassé le vieux en dansant toute seule sur un air de Tina Turner. Entre parenthèses, là, ma culpabilité était plus grande que la première fois. J'ai calculé que j'avais passé à l'hôpital, sous l'œil de diverses infirmières, plus de 14 mois. Et j'en ai soustrait les périodes de coma où je n'appréciais pas leurs soins. Mais entre-temps, que ce soit pour des accidents ridicules, pour des accidents plus sérieux, des opérations inattendues, pour des jambes cassées, des bras, des têtes fendues ou un accouchement, pour divers remue-ménages auxquels j'ai soumis mon pauvre corps depuis ma naissance, chaque fois j'ai retrouvé partout ce regard, cette compassion. Que ce soit dans des cliniques de luxe ou des dispensaires de campagne, dans des hôpitaux de province ou des établissements spécialisés, il y a toujours eu quelqu'un pour se pencher sur moi, me rassurer, me réconforter et me consoler si besoin était. Toujours, je l'assure, toujours, et l'idée que cette bienveillance, cette attention, cet épuisement aussi maintenant parce qu'elles sont assez plus nombreuses, l'idée donc que ces femmes qui nous soutiennent, qui nous aident dans ces événements capitaux, pendant lesquels tout ministre, tout chef d'État, n'importe qui est à leur merci et ne peut même pas leur dire merci, l'idée que tout cela est oublié aussitôt, passé, nié et rejeté, cette idée me dégoûte profondément. Ces femmes à qui on se confie soi-même au pire moment de notre vie et à qui l'on confie aussi des êtres que l'on aime le plus, ces femmes à qui l'on demande de nous aider à vivre et d'aider parfois d'autres à mourir, ceux que la vie abandonne, ceux que la vie nous prend, l'idée qu'on les paie mal, qu'on les exploite, me paraît épouvantable. Pour commencer, ce sera toujours pas assez. C'est vraiment rien. Étrange époque. C'est une étrange époque quand même que la nôtre, où ceux qui apprennent aux enfants à vivre, à découvrir la vie, les professeurs, et celles qui nous aident à y survivre, parfois à la quitter, les infirmières, sont oubliées et maltraitées. Plus qu'étrange d'ailleurs, c'est révoltant. François Sagan, septembre 1991.
Et où est-ce qu'on retrouve ce texte ?
Dans un recueil de chroniques qui est publié au Livre de Poche, qui recueille l'ensemble des textes qu'elle a écrits dans la presse, de Bonjour Tristesse jusqu'à 1998 à peu près.
On l'a dit tout à l'heure, et ce texte en témoigne, Françoise Sagan est encore bien dans notre époque finalement, encore très moderne, mais c'est un peu grâce à vous aussi, c'est-à-dire que certains se disent peut-être fils de Françoise Sagan, la belle vie quoi, des millions d'exemplaires vendus, les droits, etc. En fait c'est beau d'être l'héritier de Françoise Sagan, mais ça rapporte rien du tout, puisqu'en acceptant la succession, vous avez accepté aussi un monceau de dettes qui allait avec. Est-ce que ça a été une réflexion longue et compliquée de savoir si vous alliez accepter ou pas cet héritage?
Non, c'était une réaction. J'ai pas réfléchi. J'ai tout de suite choisi d'accepter cette succession parce que, pour des raisons affectives, des raisons morales, des raisons techniques, je vais pas tout exposer maintenant, mais j'ai pas hésité une seconde. J'ai choisi de. Je pensais que c'était. Elle est dans une situation tellement difficile à la fin de sa vie que je craignais en fait que la majorité de ses droits d'auteur soient vendus aux enchères pour rembourser les créanciers, les dettes. Et de ce fait, l'œuvre aurait été dispersée aux quatre vents. Et ça, pour moi, c'était une idée que je ne pouvais pas supporter. Donc j'ai choisi, malgré tout, malgré la dette, de reprendre en charge la reprise de la succession et de m'occuper des droits d'auteur et de rembourser tout le monde, dont l'État français.
Alors, il y a des dettes, mais il y a aussi, du coup, un accès à ces papiers. Et dans ces papiers, il y a eu notamment un manuscrit que vous avez retrouvé en
bien
septembre
après,
2019. Hein. Voilà, vous l'avez publié chez Plon. Ça s'appelle « Les quatre coins du cœur ». Formidable. Il est arrivé comme ça de nulle part. Comment ça s'est passé ? C'était long, je crois.
Oui, c'était long. C'était long parce que, en fait, ce manuscrit était dans une pile de dossiers que j'avais mis dans un coin et à laquelle je ne prêtais pas attention. Je ne sais pourquoi, d'ailleurs. Et c'était un texte que je n'avais pas... j'ai pas vraiment lu, Et puis je m'en suis aperçu assez vite que ça n'appartenait à rien. C'était un texte que je n'avais jamais lu. Voilà, donc c'est un inédit. Et puis ça avait l'air furieusement brouillon et pas tout à fait achevé. Donc je l'ai relu une fois attentivement, puis deux fois, puis trois fois. Et puis je me suis bien aperçu que c'était un texte complètement inédit. Et puis je l'ai montré au premier éditeur que j'avais à l'époque, qui était Jean-Marc Roberts, qui dirigeait Stock, qui m'a dit que le roman vraiment n'était pas en état d'être publié parce qu'il n'était pas fini. Et comme Jean-Marc, j'avais une entière confiance en Jean-Marc à l'époque, j'ai choisi effectivement de ne pas le publier. Et puis finalement, j'ai relu, et puis j'ai choisi de le publier, voilà.
Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Non, il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment le dernier texte.
Jusqu'à ce qu'on en retrouve un, quoi.
Mais non, je ne pense pas qu'on va en retrouver un autre. En revanche, il y a des correspondances qu'on a retrouvées récemment, que je publierai peut-être.
En tout cas, on a parlé du personnage Sagan tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est devenue un personnage de cinéma. Dans un instant, nous appellerons Sylvie Testu, qui a joué Françoise Sagan au cinéma. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre, les hors-séries de l'été. Nous sommes toujours avec le fils de Françoise Sagan, Denis Westhoff. Et il est l'heure de passer un coup de fil à une personnalité. Cette semaine, c'est Sylvie Testu qui se joint à nous juste après ça.
J'ai toujours vécu sans compter. L'argent, le temps. Tout a filé. À part ma propre existence, je n'ai rien su garder. Même les souvenirs m'échappent. Mes seuls vrais repères, ce sont mes romans.
Le prix de la critique est attribué à Mademoiselle Françoise Sagan.
C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de là, ça a été la corrida.
C'était un extrait de la bande-annonce du film Sagan, avec Sylvie Testu dans le rôle-titre, Pierre Palmade et Jeanne Balibar aussi. Et bonjour Sylvie Testu.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que quand on a réfléchi avec Agnès Vaudin à qui on pourrait inviter pour nous parler de Françoise Sagan, on a pensé à vous assez rapidement, évidemment. Et je me dis que pour le casting, Diane Curis n'a pas dû hésiter trop longtemps. C'est vrai qu'il y a une proximité immédiate et évidente. Comment ça s'est passé ? C'est quoi l'origine du film et de votre présence ?
Alors, elle en était plus persuadée que moi, parce que moi, évidemment, je connaissais les écrits, mais je connaissais pas très bien, en fait, la personnalité de François Sagan, et que j'ai découvert, en fait, je l'ai découverte en travaillant, finalement, et je me suis découvert, en fait, des points, je ne sais pas si ce sont des points communs, mais en tout cas des envies communes, des choses qui résonnaient chez moi. Et finalement, je me suis dit, alors, il y a toujours cette peur quand on est un acteur, on se dit, on ne pourra pas être plus vrai que la personne, puisqu'elle a vécu sa vie. On peut simplement essayer de la ressentir, et je me suis dit, finalement, c'est pas si loin. Je vais peut-être y arriver, le chemin n'est pas si compliqué. En fait, ça a été assez compliqué, parce que plus je la rencontrais et plus... En fait, je l'aimais, j'ai tellement regretté de ne l'avoir pas rencontrée. Et surtout, je me rendais compte en rencontrant les gens qui l'avaient côtoyée que j'étais une des rares à ne l'avoir jamais rencontrée. Et je me disais, à chaque fois que quelqu'un me parlait d'elle, quelque part, il me parlait aussi beaucoup de lui. C'est-à-dire que je me suis dit, elle a un endroit qui est assez rare, c'est que la personne qui est en face d'elle devient la personne la plus importante à ce moment-là. Et tout ça, c'est difficile à rendre à l'écran, à rendre quand c'est une fiction, parce qu'il faut aller plus vite, on n'a pas le temps de s'arrêter et de prendre les temps qu'elle pouvait prendre de temps en temps. C'est un photographe qui, un jour, avant même qu'on tourne le film, fait des photos de moi, donc j'avais un peu tous les atouts sur moi, et il me dit, le regard n'est pas là. Elle regardait les gens et parfois elle avait l'air absent. Et je me suis dit, il vient de m'aider. C'est une des personnes qui m'a le plus aidée. Et ensuite, évidemment, en rencontrant Denis, d'ailleurs, je ne sais pas s'il se souvient de cette... On a beaucoup discuté un jour dans un bureau de production chez Diane Curis. Et c'était très important pour moi. Et j'ai trouvé, ça m'a beaucoup aidée aussi, qu'il y avait beaucoup de similitudes, en fait, dans leur rythme, à force de regarder les images de Françoise Sagan. Quand j'ai rencontré lui, il y avait quelque chose comme ça d'une filmation qui s'est faite, en tout cas de mon côté.
Est-ce que vous avez eu ce syndrome de certains comédiens, quand ils jouent des personnages réels, de devenir un peu Sagan, y compris quand la caméra était coupée ?
Non, je ne l'ai pas eu. J'aurais tellement voulu lui ressembler plus, en vérité. Mais non, je ne l'ai pas eu. J'étais vraiment... Et en plus, on passait vraiment une grande partie de sa vie, c'est-à-dire très jeune, au moment de Bonjour Tristesse, bon, évidemment, malheureusement, jusqu'à la fin. Donc, vraiment, il fallait que... il y a plusieurs rythmes chez elle, il y a plusieurs... pas plusieurs François Sagan, mais en tout cas, l'évolution est grande. Donc, moi, j'étais vraiment très concentrée sur ça. Non, je ne me suis pas prise pour François Sagan, pas du tout.
Denis Westhoff, c'est impossible pour un fils... de voir sa mère incarnée par quelqu'un, ça doit être une étrange sensation.
Ah oui, non, c'est très étrange. Non, mais moi, j'étais tout à fait au fait que c'était un film, c'est une fiction, et que Sylvie ferait son mieux pour essayer d'incarner ma mère, mais j'étais tout à fait au fait, quoi. Je veux dire, j'étais tout à fait conscient de que c'était une comédie, enfin, c'est un film.
Sylvie Testu, vous l'avez relu après, avec un œil différent, après l'avoir joué. Vous êtes devenue une inconditionnelle de Françoise Sagan, c'est-à-dire vous connaissez bien l'œuvre, etc.
Alors, il y a une vraie tendresse qui s'installe dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'elle parle elle-même de cette petite musique. Par exemple, dans ses livres, moi, c'est celui qui me reste le plus aujourd'hui, c'est Par-dessus l'épaule, c'est-à-dire où elle... C'est justement un des livres qui n'est pas une fiction, un livre où elle parle vraiment d'elle.
Elle relit tous ses livres.
Voilà, et elle dit où elle en est à ce moment-là de sa vie, et ce qu'on dit les critiques, comment le public a reçu les choses, et comment ce qu'elle a ressenti par rapport à ça. Donc au final, après plus que l'écrivain, ce qui me reste moi aujourd'hui, évidemment, c'est la personne. J'ai l'impression qu'elle a fait partie de ma vie un petit temps. J'ai accompagné ce petit moment, et c'est un moment d'extrême douceur. Mais je ne peux pas dire qu'elle est dans ma vie ou que j'ai pu entrer dans la sienne. Effectivement, non. En revanche, oui, j'entends mieux cette petite musique. J'entends mieux ce petit son et cette enfance qui est toujours restée, qui est là. Je viens d'entendre ce que vient de dire Denis. C'est-à-dire, oui, elle a gardé un côté juvénile, malgré tout du long. Il y a une sorte de fil rouge comme ça chez chaque personne. Elle, je pense que ça en fait partie, avec de la malice et tout ça, que je ressens beaucoup plus, même en lisant les livres, les extraits. Et souvent, de toute façon... qu'on fasse du théâtre, du cinéma, on propose souvent des extraits d'un livre, d'une pièce de théâtre de Françoise Sagan. Et je l'entends certainement différemment aujourd'hui.
Merci Sylvie Testu, merci beaucoup. Et dites-moi, quand est-ce que je peux venir visiter votre bibliothèque pour l'émission?
Eh bien écoutez, je ne sais pas, que tu feras moins chaud, je n'ai pas la clé.
Ça marche à la rentrée alors. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je voudrais conclure avec les mots de Sagan. Jérôme Garcin lui avait demandé un jour de rédiger son épitaphe et voilà ce qu'elle a écrit. Sagan Françoise fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition après une vie et une œuvre également agréable et bâclée ne fut un scandale que pour elle-même. Pour ça, elle s'est trompée. Merci Denis Westhoff d'avoir pris le temps de venir nous parler de votre mère. Je signale au passage deux livres. Françoise Sagan, ma mère, chez Flammarion, de Denis Westhoff donc, et Les quatre coins du cœur, le dernier roman de Françoise Sagan, publié chez Plomb. C'était en 2019, sans oublier la vingtaine de romans et les nouvelles. Et évidemment, si vous ne l'avez pas lu ou si vos ados ne l'ont pas lu, cet été, profitez-en pour lire Bonjour Tristesse, encore et toujours. Dans un instant, encore des livres, bien sûr. On part retrouver les libraires de La Voix est libre. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Il est l'heure de flâner dans les librairies à l'heure d'été, donc sujet libre, avec aujourd'hui Pauline Carayon, qui est déjà morte de rire, du CNL, Centre National du Livre, et Christophe Daniel de la librairie, magnifique librairie, la 25e heure à Paris. Bonjour à tous les deux.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
On commence avec vous, Christophe.
Oui, alors moi j'ai choisi de vous parler d'un livre de Joseph O'Connor, Maintenant ou Jamais. Maintenant ou Jamais, c'est un roman autour d'un groupe de rock, de Ships in the Night. Un groupe de rock qui se constitue dans les années 80, en Angleterre, dans la banlieue de Londres.
Les frites dans la nuit?
Voilà. et qui va connaître les galères comme il se doit, mais aussi qui va avoir un succès phénoménal avec un tube planétaire et une tournée magistrale en 86. Alors, en fait, ça démarre au moment où le guitariste du groupe, Robert Golding, à 50 ans, il est un peu rincé par la vie et sa fille ado l'a vraiment tanné pour qu'il écrive ses mémoires. Et il va nous raconter la rencontre d'abord avec Fran et cette espèce d'amitié à la vie, à la mort. Il s'appelle Glimmer Twin entre eux, c'est les frères de sang. Et ces deux gamins qui sont assez marqués par une enfance pas très rigolote vont se rencontrer à travers la musique, d'abord jouer à deux et puis rapidement étoffer le groupe avec deux autres membres. Il y aura 13, une jeune femme qui jouera de la basse, du violoncelle, et son frère jumeau Sean. C'est un bouquin qui est à la fois donc sur l'alchimie qui inhérente à un groupe de rock, et c'est aussi un roman d'apprentissage où ce groupe The Ships in the Night n'a jamais existé, mais il croise Elvis Costello, les Clash, les Pogues, Bob Geldof.
Un roman historique rock, quoi.
Voilà. Et on sent que Joseph O'Connor connaît bien le sujet. Pour la petite histoire, c'est le frère de Sinéad O'Connor. Donc je pense que la famille a baigné dans le rock et il raconte ça très bien. C'est émouvant. Il y a tout, les histoires d'amitié, les histoires d'amour, de rock, de drogue, évidemment. Sex and drugs and rock and roll, mais sans jamais tomber dans les stéréotypes.
Vous écoutez quoi comme musique? Parce que vous êtes plutôt folk, moi, comme ça, vu de loin. Mais...
Ah, vu de loin, alors. Non, je suis aussi folk, mais oui, je suis rock. Joseph O'Connor est né en 63, moi, un an après. Donc, je me suis bien retrouvé dans les références qu'il donne.
Joseph O'Connor, maintenant ou jamais, c'est chez 10-18. Pauline Carayon qui révisait pendant que Christophe Daniel parlait.
Ben ouais, moi, je vais vous parler du nouveau bouquin donc de Anne Lorquer, Richesse oblige. Mmh. Alors après, la daronne, Anne Lorquer récidive avec son roman Richesse oblige, paru chez Métellier.
Ah oui, c'était bien la daronne aussi.
C'était très très drôle, c'était fin, c'était subversif. C'était
une dame qui trempait dans le trafic de drogue.
Exactement, une traductrice.
Il y a eu une adaptation au cinéma.
Oui, je l'ai pas vu. Vous l'avez,
Je l'ai pas vu.
Moi non plus. Bon. Et donc... Richesse oblige raconte l'histoire de deux personnages qui portent le même nom de famille, mais plus d'un siècle les sépare. Il s'agit donc d'Auguste de Rigny, qui est un fils de la grande bourgeoisie et qui a tiré au sort le mauvais numéro et doit effectuer son service militaire que les héritiers de l'aristocratie essaient d'éviter à tout prix, par peur de finir bouilli comme de la chair à canon. Voilà. Mais à cette époque, en 1870, avant la guerre franco-prusse, on monnaie celui qui ira au front à votre place.
Ah oui.
Il s'agit d'un vrai commerce, en effet, et on cherche des hommes, en général ce sont ce qu'ils appellent des ouvriers chômeurs, pour aller combattre à la place de fils d'héritiers, ce qui correspond à de l'esclavage, quoi, tout simplement. C'est décrit. Anne Lorquer le décrit avec beaucoup, beaucoup d'humour, et on se rend compte de cette horreur de l'histoire dont on parle finalement peu. Moi, je ne savais pas, par exemple. Parallèlement à l'histoire d'Auguste, il se trouve que Anne Lorquer raconte également la vie de Blanche de Rigny, qui porte le même nom qu'Auguste, et elle est bretonne. Et en fait, lors d'une visite qu'elle rend à son père, elle surprend en fait une discussion de trois jeunes Parisiens au sujet, en effet, de la mort accidentelle de la petite amie de l'un d'entre eux. Donc, qui est morte étouffée sous les décombres du séisme de Katmandou. Et une intuition, en pleine nuit, la réveille. Et elle se dit, elle cherche les noms des victimes. Et elle se rend compte que cette jeune fille-là, qui est morte sous les décombres, porte le même nom qu'elle. Et que cette fille est la fille du richissime PDG de la société Olefina, Philippe de Rigny.
Et les histoires se croisent, j'imagine.
Exactement, Exact. Et Blanche va faire justice.
Richesse oblige, d'Anne-Laure Kerr, c'est chez Métellier.
Tout à fait.
Merci Pauline. Et Christophe Daniel, je rappelle maintenant ou jamais de Joseph O'Connor. Chez 10-18, on peut retrouver ses livres, notamment dans la superbe librairie La 25e Heure à Paris. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci Nicolas.
Et dans un instant, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolande pour parler littérature jeunesse. À tout de suite. Et il est l'heure de retrouver le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
C'est fou, hein. Vous avez trouvé à chaque fois quand même. Hein.
J'ai essayé.
Et là donc, Françoise Sagan, vous avez choisi l'adaptation en bande dessinée de Bonjour Tristesse, une adaptation signée Frédéric Rébéna.
Oui, on est en 1954, Françoise Sagan n'a que 17 ans quand elle écrit ce roman. Comme une fulgurance, celle d'un été, l'histoire c'est celle de Cécile qui passe ses vacances avec son père, Raymond. Un homme d'une cinquantaine d'années, veuf, Elsa, la jeune maîtresse de Raymond, vient compléter ce trio. Cécile et son père sont totalement fusionnels, insouciants, ils passent leur temps à se baigner, à boire, à sortir et à jouer au casino. Mais l'ambiance va changer radicalement quand Anne débarque dans la villa, Anne beaucoup plus stricte, moralisatrice aussi, essaie d'imposer ses bonnes manières à Cécile et à son père. Anne, Cécile et Elsa se livrent à un combat étrange, subtil, dérangeant parfois aussi. Elles attendent de garder Raymond, lui-même attiré par l'intelligence d'Anne. Quant à Cécile, elle a peur de perdre sa liberté avec la rivelle Anne.
Bon, mais alors l'adaptation bande dessinée, ça donne quoi ?
Alors la couleur, déjà, ça paraît bête, mais dans le roman de Sagan, il y a très peu de couleurs. Ou du moins, celles qu'on imagine sont assez austères. Le vert des pins parasols, le bleu de la mer, et puis c'est tout. Dans l'adaptation en bande dessinée de Frédéric Rébéna, les couleurs explosent, beaucoup plus chaudes. Elles atténuent finalement quelque peu la cruauté du récit de Sagan. On imagine encore mieux également la jeunesse de l'auteur du roman et l'esprit des années 50.
À partir de quel âge on peut la lire cette BD ?
Alors on peut la lire facilement à partir de 14-15 ans, oui, mais même, oui. Après et seulement après avoir lu le roman de Sagan, j'insiste. Bah oui, l'œuvre originale. Bah non, ça casse pas tout, mais c'est quand même d'abord l'œuvre originale. Mmh. Frédéric Beck BD, immense fan de Sagan, a accepté d'écrire une préface pour cette BD. Il parle d'un beau sacrilège. Françoise Sagan aurait aimé ce livre, écrit-il, car il lui manque de respect, la réveille et lui confère une nouvelle jeunesse. Cette BD donne encore plus de profondeur au texte de Sagan. Elsa y apparaît comme une bimbo sexy, sorte de bombe à retardement dans ce trio infernal. Cécile, plus indécise et triste que jamais. Enfin, Anne, la mieux réussie à mon sens, froide et dure comme dans les mots de Sagan. Bref, une adaptation vraiment sublime.
Bonjour Tristesse donc, mais de Frédéric Rébéna, d'après Françoise Sagan, une bande dessinée éditée chez Rue de Sèvres. Merci beaucoup Victor.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est la fin de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Boris Vian. Ça va swinguer. Salut.